Bonjour Henri Blocher.
Bonjour, Lia Yeager.
Je suis ravie de vous retrouver pour que nous puissions continuer d'échanger sur de grands penseurs du passé qui ont marqué votre trajet intellectuel.
Oui, merci bien. C'est moi qui me réjouis de ce moment d'échange avec vous.
Alors aujourd'hui est venu un philosophe français du XVIIe siècle qui reste très lu jusqu'à nos jours, Blaise Pascal. Pascal a cela de paradoxal qu'il n'a rédigé aucun ouvrage philosophique. Pourtant, il compte parmi les très grands penseurs de l'histoire de la philosophie. Disparu à l'âge précoce de 39 ans, son ouvrage majeur, Les Pensées, n'existait qu'à l'état de fragments, rassemblés et édités par ses proches après sa mort. L'autre ouvrage qui a fait connaître Pascal, ce sont Les Provinciales. Mais là, c'est une série de 18 lettres satiriques, publiées d'abord sous un pseudonyme, entre 1656 et 1657. C'est une défense des jansénites dans leur controverse avec les jésuites, grâce à l'arme du ridicule. Et bien sûr, on a de sa plume plusieurs traités mathématiques et physiques qui ont fait date. Comment expliquer que Pascal continue d'être lu en tant que philosophe, alors qu'il a si peu écrit?
Il me semble qu'on peut poser en règle générale que ce n'est pas le volume de la production d'un auteur qui assure la perpétuité de son intérêt. Il y a des auteurs qui ont écrit des volumes et des volumes qui remplissent deux ou trois étagères de bibliothèque et qu'on a totalement oublié, même s'ils ont été célèbres en leur temps. Et il y a des auteurs qui ont écrit très brièvement et qui sont fameux dans le monde entier. Je prends simplement comme une illustration Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ce petit livre, bien plus réduit encore que ce qui nous reste de Pascal, assure la notoriété, la célébrité de Saint-Exupéry. Donc, en règle générale, c'est la qualité, la rencontre d'un besoin profond, secret peut-être, du public qui fait qu'un auteur continue d'être lu. Alors c'est le cas, comme vous le dites, de Pascal. Pascal, vraiment reste très présent sur la scène présente et il est salué par certains auteurs comme le premier des penseurs français. J'ai ici une citation du romancier Julien Green qui dit Pascal, le plus grand des Français. Et plus spécialement en philosophie, j'ai noté une fois le témoignage d'un philosophe assez connu aujourd'hui, André Comte-Sponville, qui dit, c'est pour moi le plus grand génie français. Je me définirais volontiers comme un pascalien athée. Au fond, tout livre que j'ai écrit, c'était pour échapper à Pascal. Alors, j'ai malheureusement fait ce que je déconseille si formellement aux étudiants de faire, c'est-à-dire que j'ai noté cette citation, alors je l'ai notée avec soin, entre guillemets, mais je n'ai pas noté ma référence. Je sais que je l'ai lu dans un entretien publié par un grand magazine. Je pense que c'était l'Express. Il y a maintenant peut-être 8-9 ans, je ne saurais dire. Mais malheureusement, je n'ai pas noté, alors que je dis toujours aux étudiants, surtout noter. Je ne l'ai pas fait dans les circonstances. Alors je signale quand même que quelques années après, j'ai lu un autre article de lui dans Philosophie Magazine. C'était en mars 2017, cette fois j'ai bien relevé, qui redit l'admiration de Comte-Sponville pour Pascal, mais affirme que Pascal le conduit à son athéisme. Donc, c'est un peu moins positif que ce que j'avais noté la première fois. Mais voilà, cette illustration confirme ce que vous disiez il y a quelques instants, à savoir qu'on continue de lire Pascal, qu'il est très, très reconnu encore aujourd'hui comme un interlocuteur, comme on dit aujourd'hui, précisément incontournable. Alors, pourquoi? Certainement une multitude de raisons, mais j'en signale deux spécialement. Le style de Pascal, c'est incroyable. Hein. Il vous saisit, il est d'une vigueur, d'une vivacité, d'une harmonie, d'un rythme. C'est prodigieux. Nous en lirons quelques extraits. À d'autres moments de notre entretien, je le pense, et chacun sera, me semble-t-il, frappé par la vitalité extraordinaire du style de Pascal. Et puis, il y a que Pascal, dans l'histoire de la pensée française, apparaît comme le père de tous ceux qui résistent au rationalisme. Le mouvement existentialiste en particulier a reconnu en lui un précurseur. Et tous ceux qui sont très nombreux dans la modernité de la deuxième phase, qui atteint sans doute son stade final, sinon d'agonie de notre temps, mais qui est encore notre modernité, tous ceux qui, donc, dans la modernité tardive, que le joug de la raison de type scientifique, la raison raisonnante, objectivante, est une tyrannie insupportable, salue en Pascal celui qui a introduit une autre façon de penser. Donc, il me semble que c'est cette reconnaissance-là qui explique en grande partie que Pascal reste tellement présent. Alors bien sûr, pour les croyants, il y a aussi que c'est un apologète. C'est un homme qui a connu une conversion profonde et qui a essayé de persuader ses contemporains de suivre un chemin semblable. Et donc, pour les croyants, il est un recours extrêmement précieux. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler.
Justement, là, il y a d'autres paradoxes, en fait, qui surgissent, parce que vous dites que Pascal est vu, hein, comme le père de tous ceux qui essayent de résister au rationalisme. Et, en tout cas, en pensée française. Mais il est lui-même, d'abord et avant tout, mathématicien, scientifique. La liste, hein, des inventions, des découvertes de Pascal est longue, et évidemment, on m'intéresse, premier degré, hein, alors juste quelques rappels, à 19 ans, hein, il invente la première machine à calculer, il avait déjà publié à 16 ans son premier écrit scientifique, mais d'ailleurs c'est pas seulement les sciences dures, hein, il a aussi inventé une nouvelle méthode pour enseigner la lecture aux enfants des écoles de Port-Royal, et ceux qui ont un penchant écologique, ce qui m'intéresse à noter, c'est le premier, disons, qui lance le premier transport urbain en commun à Paris. Alors bien sûr, on est encore loin du métro, mais en tout cas, l'idée est là. Et donc, faut-il dire que Pascal était mathématicien, scientifique d'un côté, et alors philosophe croyant de l'autre, ou est-ce qu'il y a quand même des rapports? Comment comprendre justement aussi ce côté, disons, ce qu'il faut dire irrationnel chez Pascal?
Je crois qu'il ne faut surtout pas dire irrationnel. Et ce n'est pas un irrationaliste. Il donne le moyen d'échapper au rationalisme, mais il se veut rationnel. Et lorsqu'il dit qu'il y a une infinité de choses qui dépassent la raison, il dit que c'est la dernière démarche de la raison de le reconnaître. Donc, il use de sa raison pour aller jusqu'au seuil d'un autre domaine et C'est dans cet autre domaine qu'il échappe à la tyrannie de la raison de type mathématique. Il l'a dit d'ailleurs en rapport avec les mathématiques. Donc, il est un des grands génies, hein. C'est reconnu. Il a été pionnier du calcul des probabilités. Il a fait des découvertes majeures dans l'histoire des mathématiques. Mais il dit, je n'ai que faire d'un mathématicien, il me prendrait pour une proposition. C'est une des expressions qu'il a employées. Donc il refuse une tyrannie, il refuse de laisser le dernier mot à la raison raisonnante de type mathématique, mais il ne la récuse pas dans son domaine et à son stade. Donc il ne faut donc pas du tout le taxer d'irrationalisme. Même pas d'irrationalité, même si le rapport de la raison et de la foi et de ce qu'il considère comme la sensibilité du cœur ne me satisfait pas entièrement, on pourra peut-être en reparler, je pense qu'il ne faut pas le classer du côté de ceux qui prônent une ouverture vers l'irrationnel. En un sens, c'est du suprarationnel dans la ligne de la rationalité, et cela avec rigueur. Donc, je pense qu'il faut déjà clarifier ce point. Alors, pour répondre plus radicalement à votre question, y a-t-il chez lui une séparation entre le mathématicien qui use de la raison raisonnante, et physicien, et le penseur de sa foi, le croyant apologète? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a de très nombreux contacts qui ne se résument pas dans ce que je viens d'évoquer, à savoir que c'est la raison même qui conduit à accepter un dépassement de la raison. Finalement, par la révélation. Hein. Il y a aussi des affinités dans le mode de pensée que l'on voit Pascal mettre en œuvre lorsqu'il travaille en savant et lorsqu'il pense sa foi. Un des traits qui sont communs, c'est le respect de l'expérience. C'est un élément qui le distingue de Descartes. Descartes se soumet à l'expérience, mais on sent bien que c'est parce qu'il y est obligé, il y est contraint, et ça ne le réjouit pas spécialement. Alors que Pascal, au contraire, est tout heureux de montrer que la raison toute seule ne peut rien décider, en science même, mais qu'elle doit recourir à l'expérience. Et puis, un deuxième trait qui est encore plus, je dirais personnel, c'est le goût du paradoxe. En science aussi, Pascal se délecte des paradoxes, et en mathématiques plus spécialement, de la notion d'infini, avec l'espèce d'étourdissement que la notion d'infini inflige à l'esprit humain. C'est quelque chose d'ailleurs que le chevalier de Méret, dans une lettre qu'il lui a écrite, souligne. Dès que nous évoquons l'infini, notre raison se trouble. J'ai réfléchi à cette question et j'arrive à la pensée qu'il y a deux grands types d'esprit, une bipolarité, un peu comme celle de la claustrophobie et de l'agoraphobie. Chacun se situe sur une échelle qui va d'un pôle à l'autre. Il y a ces paradoxes, cette espèce de déboussolement que certaines pensées infligent à la raison, gênent. Ils l'éprouvent, mais ils en sont désagréablement affectés. Et puis il y a ceux à qui cela plaît au contraire. Et Pascal est un penseur qui se délecte de cette expérience. Il y a pour lui une sorte de volupté à sentir que la raison vole en éclats, qu'elle ne sait pas où le vent l'a fait tourbillonner. Et cela, déjà quand il pratique les sciences, et non pas seulement quand il pense sa foi. Donc, il y a des éléments de convergence entre le travail de Pascal scientifique et le travail de Pascal théologien, philosophe, si on veut aussi. Théologien, philosophe, ça ne se distingue pas vraiment chez lui. Et apologète.
Alors justement, en continuant sur la notion de paradoxe, je trouve un paradoxe, c'est aussi que Pascal, lui, était catholique, hein, proche d'un courant minoritaire, le jansénisme, justement réprimandé par la hiérarchie romaine, et pourtant, il fait figure aujourd'hui de penseur œcuménique, j'ose dire. Hein, donc catholique et protestant se réfèrent à ses pensées. Et justement, vous avez mentionné Comte-Sponville qui, lui, peut même se dire pascalien et athée. Comment comprendre cette reprise très large de Pascal, justement, dans des milieux qui, en principe, voilà, se différencient, voire s'opposent, hein, sur certains points?
On peut dire c'est la supériorité de son génie. Précisément, il fait une contribution d'une originalité si puissante qu'il dépasse les clivages ordinaires et qu'il peut intéresser des gens de diverses allégeances. Mais je pense que je peux quand même ajouter deux ou trois remarques à cette réponse fondamentale. Je pense qu'il faut dire, en premier lieu, qu'il est profondément catholique et que c'est par une certaine illusion que certains protestants ont cru pouvoir l'annexer, qu'il y a chez lui une composante d'un catholicisme tel que les protestants ne peuvent vraiment pas l'admettre, qui se trouve vraiment profondément dans son expérience de chrétien, et donc qu'il ne faut pas l'écuméniser trop vite et trop complètement. Il reste un catholique, alors janséniste, malgré une certaine originalité, à coup sûr, mais il y a une part de situation stratégique, hein, qui, au XVIIe siècle, a beaucoup compté dans la France de Louis XIV. Être assimilé aux protestants, c'était un arrêt de mort. Et presque littéralement. Et il y a eu des pasteurs martyrisés à supplice de la roue et tués simplement parce qu'ils étaient pasteurs et qu'ils continuaient de prêcher. Hein. Donc, il y a les galères, etc. Donc, être assimilé aux protestants calvinistes, pour les jansénistes, c'était le danger suprême. Et les jésuites n'ont cessé de les attaquer précisément comme crypto-calvinistes. Il y a une caricature qui a été publiée à ce moment-là, d'après les livres que j'ai lus. Je n'ai pas vu la caricature, mais et qui montre Jansénius, le père donc du jansénisme, duquel le jansénisme tire son nom, se réfugiant à Genève. C'est une caricature que les jésuites diffusaient. Donc, il y a chez Pascal lui-même, comme chez les jansénistes, un anti-calvinisme, un anti-protestantisme très, très véhément qui, pour une part, correspond à une nécessité stratégique. On pourrait presque dire de survie dans le monde culturel français du règne de Louis XIV. Mais ce n'était pas simplement de la stratégie. Il y a quand même quelque chose de profond aussi à cet égard. Et Et donc, ma première réponse à votre question, c'est que il ne faut pas exagérer le caractère œcuménique de l'œuvre de Pascal, de la foi de Pascal. En deuxième lieu, je pense qu'on peut dire que il y a effectivement des éléments du pascalisme, si on peut employer ce terme, qui correspondent à des accents très forts dans la tradition protestante, dans certaines traditions protestantes, évangéliques d'une part et libérales d'autre part. Évangéliques, surtout avec cette expérience de conversion, qui est quand même une originalité très forte du côté catholique, pour la tradition française des siècles de chrétienté. Et pour les libéraux, par précisément une certaine dévaluation de la raison raisonnante, de type objectivant, quand il s'agit de la foi. Je ne dis pas que Pascal ait été moderniste avant l'heure, qu'il ait été prêt à enlever au dogme sa force normative. Non, non, pas du tout. Il était sincèrement de l'autre côté. Mais avec son accent sur le cœur, la foi comme le cœur, et le décalage qu'il opère entre la raison, aussi telle qu'elle s'est déployée dans le travail des théologiens scolastiques et post-scolastiques, et l'ordre du cœur qu'il valorise. Il y a quelque chose qui plaisait très fort aux libéraux français. Donc, ils se sont réclamés de lui. Bon, je pense à Auguste Sabatier, par exemple, qui se réfère très clairement, très expressément à Pascal, et qui était un libéral très bon, vraiment chef de file. Donc, voilà à la faveur de quelles ambiguïtés, de quelles affinités, proximités, le fait que vous évoquez peut, sinon s'expliquer, du moins se commenter.
Et alors pour les athées, ça paraît encore plus surprenant parce que les pensées, c'est comme un projet d'apologie de la foi chrétienne. Pourquoi des athées trouvent autant de, en tout cas certains athées trouvent autant de sources d'inspiration chez Pascal?
C'est probablement parce qu'il fait quand même s'enraciner sa foi dans cette expérience très subjective qui a marqué sa conversion, qu'il dénonce comme inutile. Alors il ne les considère, il ne dit pas qu'elles soient invalides, mais qu'il considère comme inutile les preuves métaphysiques de l'existence de Dieu. Tout l'appareil de l'apologétique classique. Et du coup, les athées comme Comte-Sponville, j'essaie d'interpréter, je n'ai pas de texte précis de lui à l'esprit, hein, mais j'essaie d'interpréter, des philosophes comme Comte-Sponville peuvent considérer que cette expérience subjective, ils ne l'ont pas faite, et que donc, ils n'ont pas besoin de suivre Pascal à ce propos, mais que Pascal ne leur impose rien. Ces athées-là trouvent très déplaisante la prétention des apologètes plus classiques de leur dire, voilà ce qui est rationnel, si vous voulez être rationnel, il faut croire. Alors là, ils sont très mécontents parce qu'ils veulent être rationnels et ils ne veulent pas croire. Mais en un sens, ils prennent en tout cas Pascal comme leur disant croire, c'est au-delà de la raison. Donc, vous êtes rationnel si vous ne croyez pas. En tout cas, ils le prennent comme ça.
Mais ça serait mal interprété Pascal, ou est-ce qu'il y a au moins les germes de cette pensée chez lui, l'ambiguïté?
Il y a peut-être quelques germes, à mon avis. Pascal fait grand effort pour montrer que c'est la raison même qui conduit à la foi. Et dans ce sens, il s'oppose à cette interprétation que je viens de caricaturer, hein, de résumer, mais à très gros traits. Mais il est vrai que cette distinction et cette critique qu'il développe de la politique classique peut conforter les athées dans leur persuasion qu'ils sont rationnels s'ils ne croient pas en Dieu.
Et alors vous-même, comment est-ce que vous vous positionnez, non pas par rapport à la foi en Dieu, mais par rapport à la question de la rationalité de la foi en Dieu? Est-ce qu'elle s'impose, disons, par la raison?
Alors, c'est un point pour moi de différent avec Pascal. Je dois beaucoup à Pascal, je l'aime, mais je pense que son articulation de la raison et de la foi n'est pas celle de l'Écriture. Je pense qu'il peut être critiqué d'un point de vue biblique à deux égards. D'une part, il laisse à la raison, considérée comme autonome, un domaine où elle règne, où précisément dans son entreprise scientifique ou technique, la raison, pour Pascal, semble avoir son domaine propre et ne pas avoir à rendre de compte en quelque sorte. Et cela, je le conteste bibliquement. Je dis que toute pensée vient sous le jugement de Dieu, que le principe de toute sagesse, et le mot sagesse dans l'Ancien Testament, je fais allusion au texte bien connu, le principe de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La sagesse de l'Ancien Testament inclut ce que nous appelons la science de la nature. Ce moment-là, il n'y a pas de séparation. Et toute sagesse donc, a pour principe la crainte du Seigneur. Alors qu'il me semble que Pascal accorde une mesure, alors c'est un champ limité, mais une mesure à une raison autonome. Et en cela, il est un homme de la modernité. Ça, c'est le premier point de vue. Et le deuxième point de vue, alors, c'est qu'il me semble qu'il dissocie de manière trop nette la pensée raisonnante et la foi. La raison et le cœur, si vous voulez, ou l'esprit, il dit souvent esprit pour raison. Dans son vocabulaire, l'esprit, c'est le siège de l'intelligence et de l'intelligence qui s'exerce dans le domaine des sciences, et il distingue le domaine du cœur. Or, dans l'Écriture, le cœur est l'organe de l'intelligence. Ce qui est déterminant par rapport à la foi, c'est l'orientation du cœur. C'est le motif fondamental qui meut la pensée et qui fait qu'elle n'est autonome dans aucun domaine. Voilà ce qui est ma conviction, et que je crois dans la ligne biblique, et je constate un écart par rapport à Pascal. Donc, vous saisissez comment je suis obligé de me distancer quelque peu de lui sur le point précis que vous avez soulevé.
Alors, vous avez dit que vous aimez Pascal, donc il a compté dans votre cheminement. Pourquoi ou quels sont les thèmes ou les aspects de son œuvre, de sa personnalité peut-être, qui vous attirent tant maintenant dans votre propre cheminement intellectuel?
Il y a le charme que tout le monde éprouve, je dirais, à la lecture de Pascal, ou presque tout le monde, hein, presque tous les penseurs. On lit, on a un homme tellement sensible, tellement sincère, tellement vivant. C'est extraordinaire. Donc, il y a ceci. Mais si l'on parle davantage du contenu de la pensée, il y a sens de la grâce. Il est augustinien, comme janséniste, ou janséniste plus peut-être, mais il est augustinien, je suis augustinien. Et je crois qu'Augustin a bien compris le message biblique, et en particulier tel que Paul, l'apôtre Paul le fait ressortir. Donc, cela, c'est quelque chose qui vraiment me fait vibrer, mais et pas seulement dans les pensées. Je relisais, parce que j'ai relu un peu quelques textes, sachant que nous allions converser aujourd'hui, une lettre à Mademoiselle de Roanet, qui a eu, sans doute un peu jeune que lui, mais la plus grande proximité intellectuelle et spirituelle avec lui. Et il y a toute une correspondance abondante. Et là, il parle de la providence de Dieu qui détermine tout ce qui arrive, de telle sorte que même des choses qui nous paraissent comme des maux, c'est la providence de Dieu qui doit être considérée comme la cause et qui doit nous permettre de les accepter de la main de Dieu, etc. Voilà, c'est une affirmation qui correspond au sens de la détermination de tout ce qui arrive par la souveraineté de Dieu, selon son dessein. C'est quelque chose qui n'est pas très populaire aujourd'hui et qui n'est pas présent, je dirais, dans la théologie catholique contemporaine, et qui est très fort chez Pascal, qui me plaît, qui me fait vibrer beaucoup. Donc ça, et il y a l'aspect d'expérience subjective. Je suis, vous le savez, héritier du piétisme et revivalisme que cette dimension de l'héritage protestant orthodoxe. Et il y a chez Pascal, c'est pour ça qu'on a Alexandre Vinet, qui est aussi une référence pour cette tradition-là, s'est attaché à Pascal. Alors, pas du tout de façon hagiographique. Hein. J'ai ici ces études sur Pascal. Il sait très bien marquer les distances aussi, mais avec beaucoup de finesse. Mais il y a une valorisation de l'expérience intime de la grâce de Dieu qui risque d'être très peu perceptible dans la grande tradition orthodoxe réformée, mais que le piétisme et le revivalisme ont vraiment très fortement marqué, et le puritanisme du côté proprement réformé, qui se retrouve chez Pascal. Donc, cela aussi compte.
Justement, cette expérience intime de la grâce, vous avez déjà évoqué la conversion, ou est-ce qu'il faut dire la deuxième conversion de Pascal. Peut-être vous pourriez nous dire quelques mots de plus sur cette expérience.
Je pense que le plus simple, c'est de lire le mémorial qu'on a écrit tout de suite, d'ailleurs, Pascal, et qu'il avait cousu dans la doublure de son pourpoint pour toujours l'avoir avec lui, le mémorial de la nuit de feu, qui est, ça, je dirais, quand même sa vraie conversion, le 23 novembre 1754. Je pense que le mieux, c'est de lire en entier ce passage qui vous fera de nouveau aussi percevoir ce qu'il en est du style de Pascal. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres aux martyrologes, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres. Depuis environ 10 h 30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et deum vestrum. Donc c'est mon Dieu et votre Dieu, ce sont les paroles que Jésus a prononcé en parlant à Marie-Madeleine, lorsqu'elle l'a vu ressusciter. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est la parole de la belle-fille Ruth Naomi, sa belle-mère, dans le livre de Ruth. Oublie du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, foi, pleurs de joie. Je m'en suis séparé. Dire liquerunt me fontem aquae uivae. Ils m'ont abandonné, moi, la fontaine d'eau vive. C'est le verset de Jérémie. Dieu, me quitterez-vous que je n'en sois pas séparé éternellement? Cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ces citations de Jean 17. Jésus-Christ, Jésus-Christ. M'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Que je n'en sois jamais séparé, il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliscio sermones tuos, amen. Je n'oublierai pas tes paroles. Amen. Voilà le mémorial en entier.
C'est truffé de citations bibliques.
Alors, c'est truffé de citations bibliques, oui, les réminiscences qui lui reviennent. Et c'est un des traits de, je pense, de la piété pascalienne, de cette immersion, cette imprégnation de l'Écriture sainte. Avec les apocryphes aussi, hein, il ne faut pas non plus là dissimuler le caractère catholique de sa piété, mais c'est un trait très, très marqué.
Quels sont les thèmes majeurs que vous dégagez de ce mémorial?
Je pense que celui qui ressort d'emblée, c'est ce contraste Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et non des philosophes et des savants. Alors il faut se rappeler que philosophe, ça désigne aussi les scientifiques en ce temps-là. On appelait les sciences naturelles, on les appelait philosophie naturelle. Il s'agit, je pense, de la philosophie de type scolastique qui dominait dans l'université encore, et de Descartes. Il a des paroles que je pense d'ailleurs un peu injustes sur le Dieu de Descartes, disant que Descartes aurait bien voulu s'en passer, mais qu'il a dû quand même lui faire une petite place, une chiquenaude initiale. Je crois que ce n'est pas du tout un jugement vraiment lucide sur la place de Dieu, je sais pas, dans le système de Descartes. Il est tout bon, indispensable, il est important, mais c'est vrai que ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu d'une rencontre personnelle, le Dieu d'une promesse qui porte dans la vie. C'est un Dieu qui est requis pour que la raison découvre les structures de la réalité ultime, mais ce n'est pas le Dieu de l'alliance qui intervient dans l'histoire, qui appelle, qui se fait connaître de manière intime. Là, c'est le contraste. C'est le contraste qu'il établit entre la raison et ou esprit et le cœur dans d'autres passages. C'est ce contraste-là qui est présent dès ce mémorial. Dans ce mémorial. Alors, il me semble qu'il y a deux ou trois autres thèmes qui sont typiquement pascaliens, mais qui reviennent souvent. Il y a l'opposition entre le monde et le service de Dieu, et l'adhésion à Dieu. Oubli du monde et de tout. Oui, Dieu. Renonciation totale et douce. Et on peut se demander s'il n'y a pas là un ferment de dualisme. Alors, il était très présent dans la tradition chrétienne et catholique de encore vivace au XVIIe siècle. Je ne sais pas si il est typiquement pascalien, mais ce dualisme au moins soupçonnable dans ses paroles, mais cela est très fort chez Pascal. Alors ça correspond aussi à une expérience intime, c'est-à-dire que sa conversion du 23 novembre 1654 l'a fait sortir de sa période de mondanité, le monde au sens d'un certain style de vie sociale. Et il a eu une assez brève période où il a brillé dans les salons, où il a même songé au mariage. Donc il a eu, il était fêté, il fréquentait ce qu'on appelait les libertins, c'est-à-dire pas forcément des libertins au plan des mœurs, encore que ce n'ait pas été totalement exclu, mais des libertins par rapport aux dogmes imposés par le pouvoir politique lui-même. Il faut se rappeler que le dogme, c'est aussi la loi de l'État. C'est pour ça qu'il y a eu persécution des protestants et des jansénistes. Donc, les libertins sont les gens qui, disons, s'estiment libres, au moins secrètement, sans trop, clandestinement, sans trop laisser voir pour ne pas se faire emprisonner. Et Pascal les a fréquentés. C'est d'ailleurs à eux qu'il destinait spécialement l'ouvrage dont nous avons les fragments sous le titre Les Pensées. C'était une grande apologie destinée à ces libertins, qui parmi les intellectuels étaient assez nombreux. La masse du peuple, non, était incapable d'accéder à ce genre de, par les conditions de vie, ce genre de réflexion et de tentative de libération. Mais donc, il a eu une période de mondanité à laquelle il a renoncé à partir du 23 novembre 1754. Et ce qui a préparé d'ailleurs cette expérience-là, d'après ce qui a été reconstitué d'après le témoignage de sa sœur, c'est que il a été un peu dégoûté de cette mondanité dans les 2 mois qui ont précédé. Déjà en septembre, il avoue que non, ça. Et il s'est laissé gagner par une inquiétude et peut-être même par un certain tourment à cet égard. Donc, a délivré la renonciation totale et douce de sa conversion. Donc, ça, c'est un trait qui apparaît. Un autre trait, alors, qui est très, très important, c'est le christocentrisme. Là, il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, et donc pas tellement la théologie naturelle. Et c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de le connaître lui, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et puis alors, un sentiment très, très, très fort du péché. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Il reconnaît la profondeur tout à fait haïssable de cette espèce d'indifférence, de frivolité qui a été, disons au moins, un aspect de cette période de mondanité chez lui. Il reconnaît que cela veut dire finalement crucifié pour sa part le Seigneur Jésus, le Christ. Et donc, il s'en accuse profondément. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Puis alors, il y a encore un autre élément que là je ressens comme un peu plus catholique. C'est cette crainte d'en être séparé, que je n'en sois jamais séparé. Mon Dieu, me quitterez-vous? Il n'y a pas ce qu'on appelle dans le discours protestant ordinaire l'assurance du salut. Il y a un vœu, mais il y a toujours quand même une certaine crainte, que ce salut dont on éprouve la joie soit enlevé. Et ses dernières paroles, d'ailleurs, que ce n'est pas le mémorial, mais les dernières paroles à sa mort, c'est que Dieu ne m'abandonne jamais. Cette crainte de l'abandon par Dieu. Et je pense aussi très présente. Alors, je dis que cela distingue de l'assurance du salut protestante. Je pense que l'assurance du salut protestante, la vôtre, la mienne, c'est un combat. Et que il s'agit pas d'ignorer que cette crainte peut être aussi au cœur et a besoin d'être surmontée par la foi. Donc la distance est peut-être moindre que d'abord je pouvais le suggérer. Mais cela est présent. Et alors, du point de vue du repérage du catholicisme de Pascal, catholicisme authentique, il y a bien sûr Saint Clément, Saint Chrysogone au début, mais c'est très, très délibéré, hein. Il s'inscrit là dans une tradition qui n'est pas tout à fait celle d'un protestant évangélique comme je suis. Et surtout, alors, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. C'est le directeur de conscience. C'est le prêtre auquel il se confesse. Et il doit se confesser pour obtenir l'absolution des péchés qu'il vient de confesser. Cette médiation du prêtre, du directeur de conscience, ce qui veut dire un rôle de l'Église, un rôle médiateur de l'Église. Cela, c'est, je pense, la grande différence entre la foi de la Réforme et la foi du catholique et de Pascal.
Alors, si j'ose une question plus personnelle, quels échos le mémorial évoque-t-il en vous? Parmi tous ces thèmes, lequel est peut-être celui où vous vibrez le plus?
Bon, il y a, je pense, cette connaissance de Dieu par les voies qu'enseigne l'Évangile. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Là, je vibre à 100%. Et je ne crois pas à la possibilité d'élaborer une théologie naturelle entièrement véridique,
Théologie naturelle, faut-il
hors du
l'expliquer?
témoignage biblique, c'est-à-dire une doctrine vraie sur Dieu qui n'utilise que la raison dans son rapport à la révélation naturelle, à l'existence du réel avec ses structures, avec le témoignage que cela porte. Alors je crois qu'il y a une révélation naturelle, mais je crois que notre regard est trop obscurci par les effets du péché, précisément pour qu'une théologie naturelle véridique puisse être élaborée. Et pour le salut, il n'y a que Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Cela, je pense pouvoir l'identifier comme l'élément qui me fait vibrer à fond. Mais c'est. Je parlais de l'assurance de la foi. Je pense avoir reçu, grâce à la doctrine de la justification par la foi seule, que les catholiques ne reçoivent pas de manière suffisamment claire, en tout cas, hein. Je pense avoir une assurance qu'il ne leur est pas possible, mais en même temps, je l'ai dit, il y a combat. Et je prie, je ne peux pas le cacher, pour que le Seigneur me donne de ne pas fléchir dans la foi jusqu'au dernier moment. Le Seigneur me donne, effectivement, de jamais douter profondément de lui, de sa grâce, jusqu'à mon dernier souffle. Donc, en un sens, je vibre aussi en lisant que Dieu ne m'abandonne jamais, que je ne dévie jamais de ce chemin où il m'a placé.
Oui, c'est peut-être plus que moi, je ne t'abandonne jamais.
Oui. Alors, comme je suis augustinien avec Pascal. Et je pense que je n'abandonnerai jamais le Seigneur s'il ne m'abandonne jamais, c'est-à-dire s'il me donne, lui, de ne pas l'abandonner, que j'ai besoin de lui à tout moment pour ne pas l'abandonner.
Je te remercie, Henri Blocher, hein, pour ces mots très personnels. Je crois qu'il est bon de nous arrêter dans nos échanges sur Pascal, en tout cas aujourd'hui, hein, sur cette note. Alors, nous aurons à revenir sur Pascal. Fait que commencer à parler de Pascal. Merci déjà pour ces éclairages à la fois profonds sur Pascal et aussi la fenêtre finalement que vous avez ouverte. C'est votre propre expérience de foi.
Merci, merci bien.